Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France.
Bonsoir à tous, chers amis. Plus d'orages jusqu'à 20h sur Sud Radio. Juste des vraies voix qui font bouger la France. À partir de 19h30, parlons vrai avec les entrepreneurs. Vous retrouverez Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart en compagnie de ses invités. Avant cela, place aux voix de la politique. Nicolas Corato et Maxime Thiébaud qui sont avec nous jusqu'à 19h30. Nous allons parler de la droite cette fois-ci. Les digues ont-elles rompu entre les Républicains, certains d'entre eux du moins, et le Rassemblement National? On reviendra sur la zizanie semée suite aux propos d'une numéro 2 du parti, Guillaume Pelletier, qui se sentait en phase notamment avec les valeurs d'un Robert Ménard. Les digues ont-elles rompu entre la droite et l'extrême droite? On en parle tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique.
Les voix de la politique jusqu'à 19h30, comme tous les lundis soirs sur Sud Radio. Nicolas Corato est avec nous, bonsoir.
Bonsoir Jean-Marie, bonsoir Maxime.
Fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre « Grandes plaidoiries et grands procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle », c'est publié chez Redium. Vous entendiez parler de Maxime, voici Maxime. Maxime Thiébaud, bonsoir à vous.
Bonsoir Jean-Marie, bonsoir Nicolas.
Docteur en droit, auteur du livre « Gilets jaunes vers une démocratie réelle », c'est publié chez VA Presse. Au programme ce soir, nous parlerons de la droite pour une fois, Nicolas Corato. Les digues ont-elles rompu entre les Républicains et le Rassemblement National? Zizanie à droite, on le disait, suite aux propos du numéro 2 du parti, Guillaume Pelletier, numéro 2 des Républicains, qui a proposé une justice exceptionnelle en cas de blocage avec le Conseil constitutionnel. Il aurait fallu passer par un référendum, dit-il. Il ajoute qu'il peut porter les mêmes convictions qu'un Robert Ménard, le maire de Béziers, élu avec le soutien du Rassemblement National. Alors, ce n'est pas pour ramener le calme à droite en pleine campagne, effectivement, de ces régionales. Il a été recadré immédiatement par le patron du parti, Christian Jacob, qui explique que l'heure, je cite, n'est pas aux prises de position personnelle qui nuisent à tous, mais à la mobilisation derrière nos candidats au moment où les Républicains sont en tête des enquêtes d'opinion. Christian Jacob qui invite l'équipe dirigeante, donc M. Pelletier, à être en soutien total derrière les listes. La seule priorité, jouer collectif. En gros, ne pas draguer trop ouvertement soit La République En Marche, soit le Rassemblement National. Les déclarations de Guillaume Pelletier qui font suite à d'autres déclarations. On se souvient, il y a plusieurs semaines, d'Éric Ciotti qui expliquait que la différence entre la droite et le Rassemblement National, c'était la capacité de la droite à gouverner, rien d'autre. Nadine Morano, de son côté, qui expliquait pourquoi, justement, elle ne pouvait pas être ministre sous un gouvernement formé sous l'autorité de Marine Le Pen.
Et en l'occurrence, je ne me sens pas en phase avec Emmanuel Macron. Et en l'occurrence, à l'heure actuelle, là aussi, je ne me sens pas en phase sur tous les sujets économiques avec Marine Le Pen, qui a plutôt un programme qui est de gauche. D'un point de vue économique pour la France. Enfin,
la différence entre le Rassemblement National et Nadine Morano, c'est que le Rassemblement National est de gauche, en tout cas sur l'économie. Le reste, a priori, ça ne pose pas problème. On va vous proposer une petite archive. Ça date de 2002. C'était entre les deux tours. Le candidat de la droite de l'époque, Jacques Chirac, qui expliquait pourquoi il ne voulait pas de débat d'entre deux tours avec Jean-Marie Le Pen.
Pas plus que je n'ai accepté dans le passé d'alliance avec le Front National, et ceci quel qu'en soit le prix politique. Pas plus que je ne l'ai accepté dans le passé, je n'accepterai demain de débat avec son représentant.
Ça, c'était en 2002, juste avant que Jacques Chirac se retrouve au second tour contre Jean-Marie Le Pen et le batte à plus de 80% avec le soutien de la gauche, probablement d'ailleurs à l'époque de Nicolas Corato. Qu'est-ce qui a changé à droite entre ces deux-là, entre 2002 et 2021?
Il y a une génération d'écart, et puis il y a une bataille idéologique qui a été menée, qui commence effectivement avec la présence au second tour de Jean-Marie Le Pen, qui va s'amplifier. Je pense que la campagne et le quinquennat de Nicolas Sarkozy n'est pas étranger à cette bataille idéologique. Une bataille idéologique qui, en fait, met au cœur de l'agenda politique les thèmes du Rassemblement National. Et qui fait qu'aujourd'hui, ces thèmes sont portés plus facilement par des représentants dits de la droite républicaine ou de la droite extrême que par Marine Le Pen
elle-même.
Ces thèmes
sont quoi ? La justice, par exemple ? La sécurité ?
C'est le concours Lépine sécuritaire. Et vous citiez Éric Ciotti, Nadine Morano, oui, ou M. Pelletier, mais moi je rajoute Xavier Bertrand, qui il y a quelques jours nous expliquait qu'il fallait modifier là aussi la Constitution pour que la détention soit automatique. Bon, ce qui est très intéressant dans ce concours Lépine, c'est qu'on s'affranchit de la Constitution, c'est-à-dire que ces hommes politiques nous disent on est prêt à remettre en cause des principes fondamentaux, quitte à revenir vers le peuple, qui décidera de manière souveraine ce qu'il en sera, pour effectivement répondre à ce besoin de sécurité. Moi, je vais plus loin. On peut faire des juridictions d'exception, bien sûr, si le peuple en est... Mais mettons la peine de mort aussi en référendum et on verra bien quel sera le résultat. Ce comportement est dangereux, il est irresponsable, mais surtout, je vous dis, il vient d'un processus long qui a vu les thèses du Rassemblement national devenir les thèses majoritaires à droite et peut-être parfois à gauche.
Maxime Thiébaud, vous êtes docteur en droit en plus, donc ça tombe bien, on va revenir sur deux choses. D'abord, Guillaume Pelletier qui dit qu'il faut une justice d'exception et si jamais le Conseil constitutionnel bloque, eh bien dans ce cas-là, il faut aller vers un référendum. Ça, est-ce que c'est plutôt des idées du Rassemblement national ? J'ai pas vu Marine Le Pen porter des idées pareilles.
Non, mais c'est déjà... Cette idée dit comme ça, elle est à proprement scandaleuse. Pourquoi ? Parce que les droits de la défense sont inaliénables dans un État de droit.
Je rappelle que vous êtes élève avocat.
Oui, mais je suis avant tout démocrate et je suis attaché à l'État de droit. Mais le pire dans tout cela, c'est que quand on reprend l'interview de Guillaume Pelletier, ce n'est pas exactement ce qu'il a dit. Il a dit qu'il voulait une Cour de sûreté de la République pour simplement les questions d'immigration. Donc, il ne faut pas non plus lui cracher dessus avec véhémence. Je suis opposé, en fait, à cette cour qui soit limitée simplement sur les questions d'immigration, parce que moi, je pense que le problème est plus intrinsèque et dans la norme. Et je rejoins ici l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, M. Schöstl, qui a expliqué dernièrement que le problème, c'est que la CEDH, la Convention EDH, nous empêche d'agir, notamment pour exécuter les obligations de quitter le territoire, nous empêche d'agir pour refuser parfois l'asile à certains migrants, et qu'il faudrait modifier la CEDH pour permettre, en fait, simplement à ce que notre État puisse expulser des gens qui n'ont pas à être sur le territoire national parce qu'ils ne remplissent pas les conditions du droit d'asile. Et c'est là où M. Schöstl a apporté quelque chose d'hyper intéressant, c'est qu'il a dit qu'il faudrait créer un système qui permette que si la CEDH nous bloque, le législateur peut faire passer en force une disposition et l'imposer sur la CEDH dans des conditions bien délimitées.
Et je pense que c'est la même chose que ce qu'a proposé
M. Pelletier. Je pense que la droite, qui, et je le dis sincèrement, je suis très déçu par la droite en ce moment, par les Républicains, et même dans une certaine mesure par le Rassemblement National, parce que je trouve qu'ils ne travaillent pas assez les dossiers. Ils sont beaucoup dans la politique politicienne. Et s'ils travaillaient un peu plus ces dossiers, s'ils avaient davantage lu M. Schöstl, s'ils lisaient davantage de nombreux professeurs d'université qui interviennent en disant « l'État de droit ne doit pas limiter la souveraineté au point de ne plus permettre d'agir face aux enjeux de notre société, tels que l'immigration, du haut climat, tels que l'islamisme, etc. » Mais s'ils avaient lu ces gens-là, ils ne nous sortiraient pas des choses qui sont à proprement choquantes.
Comme les peines de prison automatiques
de Xavier Bertrand. Si vous lisez un minimum la Constitution, vous voyez qu'il y a un principe d'individualisation des peines. À partir de ce moment-là, vous savez que, d'un point de vue constitutionnel, il faut individualiser les peines. Cela n'empêche pas que si une personne est reconnue coupable, on va lui mettre une peine plancher. Mais ça n'a rien à voir avec l'automaticité. Pourquoi ? Parce que si vous rendez automatiques les peines, à partir de ce moment-là, des juges vont simplement ne plus reconnaître coupables des gens qui le sont. Donc c'était aberrant. Et c'est là où je suis un peu en colère, parce que je suis quelqu'un qui vient de la droite, je ne le cache pas, et je suis un peu en colère contre les Républicains, contre une partie de la droite, contre même beaucoup de personnes à droite, qui à mon sens ne travaillent pas assez les sujets pour défendre tout simplement un programme nécessaire, mais aussi intelligible.
Et en tout cas, qu'ils puissent tenir la route. Revenons à la politique plus politicienne. Après cette discussion sur le fond, Robert Ménard, je le disais, le maire élu avec le soutien du Rassemblement National, il n'en est pas membre, maire de Béziers, qui se réjouit aujourd'hui, justement, qui nous dit Nadine Morano, Éric Ciotti, Guillaume Pelletier, des personnalités qui n'ont pas peur de dialoguer avec toute la droite, sous-entendu y compris ce qui est à droite des Républicains, et qui mettent la France, d'après Robert Ménard, au-dessus de leurs intérêts personnels ou partisans. C'est encourageant. Est-ce que les appels du pied du Rassemblement National ou de ses soutiens envers des élus de droite, des grands élus, parce qu'on parle de personnalités politiques de premier plan à droite quand même, est-ce que ça va finir par porter ses fruits, Nicolas Corato ?
Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, j'entends plus beaucoup d'appels du pied du Rassemblement National aux élus de la droite républicaine. Ce que j'entends là, c'est des appels du pied d'élus se disant de la droite républicaine qui vont plus que sur le terrain du Rassemblement national, considérant d'une certaine manière que, c'est intéressant Nadine Morano, que Nadine Morano, et je reprends exactement ce qu'a dit Éric Ciotti ou d'autres, ou Gérald Darmanin, que Marine Le Pen est trop molle, et trop à gauche. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de nous faire croire, là aussi, c'est qu'il y aurait une autre alternative politique au Rassemblement national, qui serait encore pire que le Rassemblement national, en jouant sur la Constitution, sur la fin. Parce que, d'une certaine manière, en se notabilisant, Marine Le Pen s'est standardisée. Elle est rentrée dans l'idée qu'il y avait un état de droit dans ce pays et qu'elle devait passer pour une élue républicaine. En cela, elle a peut-être un tout petit peu labellisé son programme en se disant, après tout, il y a une hiérarchie des normes, on ne fait pas n'importe quoi. Mais là, on a des élus qui nous racontent n'importe quoi. Parce qu'imaginons que demain, ils soient au pouvoir. Vous imaginez qu'il va falloir les faire, ces référendums. Il va falloir les tenir. Il va falloir être, comme ils le diraient eux, courageux. Mais courageux, quand on a promis n'importe quoi, c'est pire que tout. C'est-à-dire que ce qu'ils nous promettent là, pardon, hein, mais c'est les prémices d'une guerre civile. Ces gens-là sont des fous furieux. Ces gens-là sont des apprentis sorciers qui mettent le feu à la vie politique française.
Étayez votre propos.
Et qui racontent n'importe quoi aux citoyens.
Étayez votre propos.
Mais je pense que ces gens-là n'auront jamais. Ces gens-là élus n'iront jamais au bout de leurs propositions, ce qui sera pire que tout. Ces gens-là mentent en disant qu'ils feront des référendums sur ces sujets. Ces gens-là racontent n'importe quoi.
Alors revenons, malgré tout, pourquoi vous. C'est un mot fort, donc vous allez nous l'expliquer. Pourquoi, par exemple, les idées prônées par Xavier Bertrand, Éric Ciotti ou alors Guillaume Pelletier seraient des prémices d'une guerre civile si elles étaient appliquées. Non,
je dis que ce genre de gouvernement qui fonctionnerait uniquement par référendum pour réformer la Constitution sur des motifs de sécurité, ce sont des gouvernements qui joueraient aux apprentis sorciers. Et je vous le dis encore une fois, puisqu'il n'y a plus de limite, vous savez, les hommes politiques, à un moment, s'ils considèrent qu'il n'y a pas de limite, c'est qu'ils envisagent un autre système politique que la République et que la démocratie. S'il n'y a plus d'autres limites que le choix du peuple à qui on proposerait, à un moment où ils doutent, des choix uniquement dictés par la peur et par la sécurité, alors je vous le dis, allons au bout des choses. Mettons la peine de mort en balance. Mettons effectivement la condamnation en première instance en balance. Mettons, par exemple, le droit en avocat après tout. Est-ce que c'est vraiment utile que les demandeurs d'asile soient défendus par des avocats? Ce serait beaucoup plus pratique qu'il n'y en ait pas. Mais mettons, comme vous le dites, pardon, mettons la Cour européenne des droits de l'homme en balance. Et après tout, le législateur, la loi, pourrait revenir sur un traité international. C'est complètement contraire à la hiérarchie des normes, à laquelle s'astreignent toutes les démocraties
occidentales. Mais nous, on est français.
Mais nous, on est plus intelligents que les autres. Et on va faire ça par référendum. Pardon, mais ça n'est plus le même régime. Ces gens-là ont quitté le camp républicain. Sont en train de nous parler d'un autre régime politique. Après tout, pourquoi pas? On peut voter pour un régime autoritaire. On peut voter pour un régime autoritaire, mais qu'on n'appelle plus ça la République.
Je pense qu'il ne faut pas aller jusqu'à cet extrême-là non plus. Parce que...
Revenons à la question.
Moi, je suis complètement paumé, je vous le dis sincèrement.
Vous êtes paumé, on a
compris. À la droite. Non, mais quand on reprend.
Il y a de la place à gauche, venez nous rejoindre, ça va aller.
Mais quand on prend le programme de Marine Le Pen, ou même des Républicains, on se rend compte qu'il est beaucoup moins sévère que ne l'était le RPR des années 90. C'est-à-dire que le RPR des années 90, le grand discours de Seguin à l'Assemblée nationale, c'est contre la fédéralisation de l'Union européenne, c'est opposé à la CEDH, c'est une vraie politique de fermeté sur l'immigration. Enfin, c'est des discours qui étaient clairs et qui n'étaient pas contraires à l'état de droit.
Et pourtant, c'était la même époque qui voyait un Jacques Chirac dire « pas d'alliance avec le Front National ».
Oui, non, mais le Front National... Moi, je distingue vraiment le RN de Marine Le Pen du Front National de son père.
Sauf que
pas qu'on juge Marine Le Pen du fait qu'elle soit la fille de son père.
Non, mais elle a récupéré le père.
En même temps, elle ne serait pas là si elle n'était pas la fille de son père.
Oui, mais ça définit chose, pas non reste... plus son engagement. Moi, je sais qu'elle a prêté serment en portant une robe et que quand on prête serment en portant une robe, quand on est avocat, c'est qu'on est attaché intrinsèquement au droit à la défense. Et je reconnais ça à Marine Le Pen. Et c'est pour ça qu'on ne l'entend pas là-dessus. Et c'est même pour ça qu'on ne l'entend pas sur la CEDH.
Cela étant dit, on a le droit aussi de parler des liens entre le Rassemblement national et le Front national d'hier, dans la mesure où on compare Guillaume Pelletier à ce qu'avait dit Jacques Chirac il y a 20 ans sur le même sujet. C'était quand même clairement différent. Ceci dit...
Guillaume Pelletier, à la même époque, il était au FN.
Il était aux jeunes du Front national avant de rejoindre Guillaume de Villiers, Philippe de Villiers, effectivement. Revenons quand même à la question politicienne. Pardonnez-moi d'insister là-dessus, c'est un peu le monde à l'envers, mais quand même. La question des alliances, elle se pose. Vous avez des régionales demain. Demain, le Grand Matin Sud Radio, par exemple, reçoit avec Patrick Roger, pour le petit déjeuner politique, Thierry Mariani. C'est un homme qui était un député des Républicains et qui est candidat Rassemblement National, tête de liste, favori en plus en région Sud.
À mon sens, il n'y a aucune différence, je le dis sincèrement, il n'y a aucune différence entre le Rassemblement National et les Républicains. aucune. Je n'en vois aucune. Ils sont exactement sur les mêmes thématiques. L'histoire est différente. Oui. Mais le militantisme a même changé. C'est-à-dire que les militants même du RN ne sont plus les mêmes qu'avant. Florian Philippot a rapporté énormément de jeunes militants dans les années 2012 qui sont aujourd'hui des cadres du Rassemblement National. Et notamment un qui est Jordan Bardella, qui est un jeune qui a été ramené par Florian Philippot, qui est aujourd'hui le premier vice-président, il semble, du Rassemblement National. Donc ce n'est plus du tout le même parti. Mais c'est un parti qui, en plus, n'est même plus sur la cause souverainiste, parce que Marine Le Pen n'est plus sur la défense du souverainisme.
Elle n'est plus sur la sortie de l'euro.
Elle ne veut plus sortir de l'euro, elle ne veut plus sortir de l'Union européenne, elle ne veut plus sortir de la CEDH. Quelle est la différence objective avec les Républicains? Aucune. Les Républicains ne sont pas pour la sortie de la CEDH, ne sont pas pour la sortie de l'Union européenne, défendent à peu près les mêmes thèmes à droite que Marine Le Pen. La seule différence, c'est qu'on entend de beaucoup plus d'aberrations sur le plan purement juridique et des aberrations tellement fortes qu'elles portent atteinte aux principes fondamentaux de notre République, notamment sur les droits de la défense. Donc moi, ça me choque. C'est pour ça que je dis que je ne comprends plus rien. Si on avait une droite qui disent demain très clairement quel est son programme sur la cause européenne, qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire, tout en garantissant l'état de droit et en pouvant répondre aux grands enjeux, moi je dirais ok. Mais dans les régionales, moi je suis désolé, si vous êtes républicain, vous votez pas pour Muselier. Enfin, je vois pas pourquoi vous votez pour lui. Vous votez Thierry Mariani. Vous êtes dans les autres régions. Moi je regarde la région Île-de-France. La région Île-de-France, quand je regarde le programme de Bardella et le programme de Pécresse, je ne vois pas grande différence. Je vois par contre des différences dans les personnels, c'est-à-dire que je vois plus de compétences chez Mme Pécresse que chez M. Bardella, mais je ne vois pas de différence énorme. Puis après, si on est satisfait de Mme Pécresse, je ne vois pas pourquoi on irait voter pour l'autre. Et dans d'autres régions, c'est la même chose. C'est-à-dire que je pense qu'au second tour, vous allez avoir énormément d'électeurs LR qui vont voter RN si le RN est devant, plutôt et vice-versa, si le LR est devant, des électeurs RN qui voteront LR. Je pense par exemple à Vauquier, qui risque très certainement d'avoir un gros report des électeurs de Cotarache.
Sachant que notre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Lyon Capital expliquait que Laurent Vauquier n'avait pas besoin de beaucoup de reports au second tour pour s'imposer si les sondages n'évoluent pas.
Oui, il a 46, en tout cas, je crois.
Nicolas Corato, la frontière entre les deux idéologiques, non, vous avez dit qu'elle s'est
stoppée. Vous êtes en train de me forcer à prendre la défense du Parti Les Républicains.
On vous aura fait tout.
Oui, vous
aura fait tout subir.
Vous m'aurez tout fait. Ça ne fait que commencer. On est qu'à un an des
vous nous disiez vous-même que vous en aviez assez de défendre la gauche. Alors on vous propose un exercice
défendons les Républicains. D'abord, je suis complètement en désaccord avec Maxime sur ce qu'il vient de dire. Le Rassemblement National est resté le Front National. C'est la même histoire, c'est la même ligne. C'est un parti d'inspiration anti-parlementariste, anti-républicain, qui prêche. Je veux bien qu'on prenne toutes les scories qui ont changé ces derniers temps, les petites nuances à gauche, à droite, l'arrivée, le départ de Florian Philippot. Ce parti reste construit sur un principe qui est la préférence nationale. Je pense que ça suffit à le définir comme un parti strictement différent des Républicains. Et pour moi, la préférence nationale n'est pas une position républicaine, c'est même une position que je juge anti-républicaine.
Et pourquoi ?
Mais on peut en discuter, on ne va pas discuter sur le fond, mais pour moi, ça fait toute la différence, et je n'ai même pas besoin de reprendre l'historique de Jean-Marie Le Pen et de son épopée au Front National pour dire que ce Rassemblement National-là, tant qu'il jugera et tant qu'il portera une idée comme la préférence nationale, sera l'exacte copie du Front National. Pour moi, ce sont les mêmes partis. Ce qui a changé, c'est ce qui se passe autour. Ce qui a changé, c'est que, contrairement à ce que vous nous passiez sur l'extrait de Jacques Chirac en 2002, toute la droite, mais par pression médiatique, par pression, de cette bataille idéologique qui a été très bien menée par le Rassemblement National, mais pas que, par une horde d'intelligentsia de la nouvelle gauche caviar. C'est la droite couscous, enfin je ne sais pas comment on l'appelle. Mais les Éric Zemmour, les gens que vous avez parfois à votre antenne ici ou ailleurs, qui font la promotion de ces idées depuis des mois et depuis des années, sont en train de gagner leur pari, qui est qu'aujourd'hui, tous les sujets tournent autour. C'est très intéressant de voir où on en est un an après la pandémie. On aurait pu se dire que ce pays, comme tant d'autres, allait sortir de cette pandémie avec une question sociale très forte. Parce qu'il y a une pauvreté qui s'est accrue, parce qu'il y a une vraie inquiétude sur l'avenir, parce que la question salariale devrait se poser de manière très importante au moment où on espère que la croissance repart. Et sur quoi on interroge les Français et on les polarise sur des questions de sécurité.
Est-ce que c'est parce qu'on les polarise ?
Le patronat se frotte les mains. C'est une aubaine. Continuons à parler de sécurité. Rajoutez-nous un peu d'islam et ne parlons pas des sujets qui font souffrir réellement les Français. Mais je dois reconnaître que nous avons perdu cette bataille idéologique, nous, à gauche. Parce que c'était nos thèmes, tout comme la laïcité était notre thème. Et qu'aujourd'hui, ces thèmes-là, ils sont pris en otage par le Rassemblement national et une partie de la droite. Tant pis pour nous, on a perdu cette bataille idéologique et je pense qu'on l'a perdu pour de nombreuses années. Ce qu'il ne faut pas à un moment, c'est, moi je veux bien qu'on aille jusqu'au bout de ce processus, mais au bout de ce processus, il y a la République. Et au bout de ce processus, il y a la survie de la République en tant que régime politique pour les Français. C'est ça le sujet qui est posé.
Effectivement, dernière question factuelle que j'aimerais vous poser parce qu'on va arriver au terme. Éric Ciotti...
Je suis trop long pour défendre les Républicains, vous voyez. Ma plaidoirie n'est pas allée au bout.
Éric Ciotti, Nadine Morano, Guillaume Pelletier, vous les verriez ministre d'un gouvernement en cas de victoire de Marine Le Pen à la présidentielle ?
Mais bien entendu. Comme j'en verrai plein d'autres dont vous ne supposeriez pas aujourd'hui qu'ils pourraient devenir ministres.
Y compris à gauche.
Écoutez, regardez ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron chez les gens de gauche. On n'aurait plus jamais imaginé des gens de gauche aller participer à une politique de droite. Ça s'est
moi,
fait.
Je vois des gens de gauche aussi pouvoir intégrer un gouvernement de Marine Le Pen. Hein.
Bien sûr.
Quoi qu'il en soit, l'avenir le dira, chers amis. Merci à toutes nos deux, à nos deux vraies voix de la politique. Promis, on parle de la gauche la semaine prochaine.
S'il vous plaît.
Allez, espérez-vous quelque chose du retour de Manuel Valls, par exemple. Je suis sûr que ça vous plairait beaucoup.
Voilà un très beau sujet.
Restez sur Sud Radio, en tout cas. Merci à nos deux voix de la politique. Maxime Thiébaud, je le rappelle, docteur en droit, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle chez VA Presse. Nicolas Corato, fondateur de Place de la République, le think tank, et auteur du livre Grande plaidoirie et grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle, chez Eredium. Restez sur Sud Radio, chers amis, parlons vrai avec les entrepreneurs. On retrouve Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart en compagnie de ses invités. À tout de suite.